Alors c'est ici que ça va se passer.
C'est quoi l'histoire? On fait dans le noir et tout?
Je vous dis rien.
Ok.
Alors, pour être dans le noir, il va falloir que vous mettiez ça sur les yeux.
Ok.
Donc vous mettez juste ça.
Donc là, vous me
confirmez que vous êtes totalement dans le noir.
Totalement, là, complètement. Là.
Génial. Je vous donne le casque.
Ok.
Ça, vous mettez sur les oreilles. Et puis, je vous souhaite une belle émission.
Pour les yeux.
L'essentiel est invisible pour les yeux. Dans le noir.
Bertrand Bichot. Alexandre Lemierre.
Notre invité est un gabin ordinaire, qui des fois n'a plus le goût de rien faire, un chanteur populaire. On voudrait qu'il soit un dieu, si vous saviez comme il se sent vieux. Il peut plus dormir, il est trop nerveux. Quand il chante, ça va un peu mieux, mais ce métier-là, c'est dangereux. Plus il en donne, plus le monde en veut. Il aime son prochain, il aime son public. Tout ce qu'il veut, c'est que ça clique. Il se fout pas mal des critiques, ce sont des ratés sympathiques. Il n'est pas un clown psychédélique, sa vie à lui, c'est la musique. S'il chante, c'est pour qu'on l'entende. Quand il crie, c'est pour se défendre. Il aimerait bien se faire comprendre. Il aimerait faire le tour de la terre. Avant de mourir et qu'on l'enterre, voir de quoi le reste du monde a l'air. Autour de lui, il y a la guerre, la peur, la faim et la misère. Il voudrait qu'on soit tous des frères. C'est pour ça qu'on est sur la terre. Il n'est pas un chanteur populaire. Il est rien qu'un gars ben ordinaire. Écrit il y a presque 50 ans, ce texte reste-t-il toujours d'actualité pour lui aujourd'hui? Ça en a tout l'air, il nous le confirmera, ou pas, dans quelques instants. Lui, le chanteur, l'auteur, le compositeur, le comédien aussi, un showman sur pâté sur scène, qui nous a enchantés en chantant un demi-siècle durant plus de 400 chansons. Nous le mettons aujourd'hui en pleine lumière, en le plongeant dans l'obscurité, tel est le principe de notre émission, en espérant, comme on le dit chez lui au Québec, qu'il n'aura pas la chienne pour autant, à se retrouver ainsi pendant une heure
dans le noir.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui à Robert Charlebois. Bonjour Robert Charlebois.
Bonjour. Merde, j'ai perdu mon accent. J'ai perdu mon accent.
Mais où es-tu?
Regardez sous le micro.
Bon,
putain
rien,
de
dans le noir.
Merde, je suis foutu. Des sardous, il y en a mille, des comme moi, il y en a qu'un.
On va commencer.
Je vous
par...
ai eu là. Hein
oui, oui, bah oui.
Bon,
oui. Mais je vous ai reconnu quand même.
Non, mais dans le noir comme ça, je vous jure, j'avais perdu mon accent. Je suis un usurpateur. En fait, c'est un gag l'accent québécois.
Ben ça marche depuis des années.
Non, oui, ça marche. Je peux plus reculer maintenant. Il est trop tard. Le gag est trop avancé.
Avoir la chienne, ça veut dire quoi? On va commencer par traduire pour que tout le monde comprenne.
Avoir la chienne, c'est avoir les, comment vous diriez, la pétoche, les chocottes, ouais.
La frousse.
Ouais, avoir peur, quoi. En français normatif, ça serait. On peut pas avoir plus peur qu'avoir peur, mais quand on a peur, on a la chienne, voilà.
Est-ce que vous avez la chienne d'être dans le noir?
Je comprends mieux Gilbert Montagné et puis Ray Charles, mais c'est pas quelque chose qui m'amuse outre mesure, non.
Vous faites quoi de vos nuits lorsqu'il fait naturellement noir partout?
L'obscurité, c'est comme le silence, ça existe à peu près jamais. Au pôle Nord, une fois, à Frobisher Bay, ça s'appelait à l'époque, maintenant ça s'appelle le Nunavut, vu qu'il y a un jour où il n'y avait pas de vent, vu qu'il n'y a pas de plantes, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas d'eau, j'ai entendu le silence, mais la vraie noirceur, à moins qu'elle soit artificielle comme aujourd'hui, là, mm-hmm. Je vous affirme que le bandeau est tout à fait étanche, il y a tellement de degrés de noir, des noirs mâts, des noirs verts, des noirs bleus, des noirs luisants, que je... L'obscurité, même dans le néant, et là je pèse mes mots parce que j'ai des souvenirs d'y avoir été, avant de venir au monde, donc ça fait pas mal, puis j'ai pas peur d'y retourner parce que bon, on vient tous de là. Mais je vois pas ça comme du noir, le néant, non. Il y avait des taches de lumière, des poussières d'étoiles... L'obscurité, pour moi, là, c'est avec un bandeau sous les yeux. Voilà.
Vous vous rappelez du néant avant votre naissance,
c'est ça? Oui. Est-ce que c'est mon imagination? C'est comme les gens qui voient des apparitions au pied de leur lit. Quelquefois, c'est vrai. Quelquefois, ils ont tellement le désir de voir apparaître des gens, des disparus ou des gens qu'ils aiment beaucoup, qu'ils finissent par les voir. Mais moi, je crois que... Je sais que les gens vont trouver que j'exagère, parce que en principe, t'as pas de mémoire avant 2 ans, 3 ans. Mais il me semble que quand j'ai ouvert les yeux, je me souviens de la hauteur des poignées de porte des armoires qui me passaient près de la tête. Et c'est peut-être dans mon imagination, mais je me souviens que j'entendais de la musique dans le ventre de ma mère. Et
ah, ça, c'est possible. C'est une mémoire. C'est pas, mais par contre, oui.
Non, c'est peut-être pour ça que j'aime Bing Crosby et que je...
Votre maman écoutait?
Ben, mon père écoutait beaucoup Bing Crosby.
Ah, dans le monde de votre père, alors.
Mon père.
Ça, non, votre histoire.
C'est devait être mon père qui fait jouer de la musique pour ma mère. Ben, mon père aimait beaucoup Sinatra, Crosby, tout ça. Puis ma mère était très, très chanson française.
Je suis un gars ben ordinaire. Des fois, j'ai plus le goût de rien faire. Je fumerai tout pote, je boirai de la bière, je ferai de la musique avec le gros Pierre. Mais faut que je pense à ma carrière, je suis un chanteur populaire.
J'ai paraphrasé un peu votre chanson ordinaire à l'intro.
Ah, c'était bien récité, hein, vraiment, ouais.
Je vous remercie. Elle est étonnamment intemporelle, cette chanson. Ça pourrait être écrit aujourd'hui?
Oui, absolument. Ça fait partie des chansons qui vieillissent bien. Et moi-même, quand j'écoute l'original, je me dis, j'en avais fumé du bon. Ou je dirigeais l'orchestre avec un pétard, mais il y en a un des deux qui traîne de la patte. Et je trouve qu'aujourd'hui, je la fais, mais sans exagérer, 10 fois mieux que quand j'avais 25 ans. Voilà, ouais.
Moins de pétards aujourd'hui, peut-être?
Non, c'est bas. Oui, peut-être. Ou j'ai changé.
Moins bon.
Maintenant que c'est légal, ça n'a plus aucun intérêt. Je vais sûrement revenir à la mode au Canada l'an prochain, parce qu'à partir du mois de juillet, ils vont légaliser tout ça. Ce qui n'a plus aucun intérêt. L'idée de fumer du pot, c'était d'être un hors-la-loi, puis de défier la police, puis de regarder s'il y avait des flics autour quand on allait acheter. Bah oui, maintenant, ça ne veut plus rien dire. On abîme nos poumons au lieu d'abîmer notre foie. Mais ma grand-mère me disait, un petit peu de LSD, un petit peu de pot, un petit peu de hache, un petit peu de bière, un petit peu de whisky, mais Robert, ne fais pas d'abus, dans rien. Elle était très sage, ma grand-mère.
On va vous proposer de vous plonger maintenant dans une ce qu'on appelle l'image du son, dans une atmosphère sonore. Et alors que vous êtes dans le noir, vous allez nous dire, Robert Charlebois, ce que vous voyez lorsque vous écoutez ça.
Là, je vois des trains, je crois. Je vois une gare, en tout cas, oui.
Vous êtes dans une gare?
Il me semble, oui.
D'accord. Vous venez d'arriver ou vous êtes en train de partir, de prendre un train?
J'espère qu'il n'y aura pas de grève.
Sinon, je vous emmène dans un aéroport, si vous préférez.
Ah, mais c'est... À moins que ce soit un aéroport.
Ah, ben, c'est ce que vous voulez, donc... Vous voulez partir en avion, je vous propose de vous installer dans l'avion, confortablement, et... Vous allez être accueilli par le commandant de bord. Installez-vous tranquillement.
Suis-je en première ou en classe affaires?
Bienvenue, monsieur Charlebois, à bord de la compagnie RTS dans le noir. Nous vous souhaitons un agréable voyage, dont nous vous proposons de choisir maintenant la destination.
Ben, je retournerai bien aux Antilles, moi.
En Guadeloupe?
Oui, parce que c'est le centre, mais j'aime tout l'arc antillais au complet. Autant les Grenadines que les îles Vierges. Je crois que j'ai des ancêtres pirates. Ça se pourrait.
C'est drôle parce que dans nombre de vos chansons, vous parlez d'avions, vos deux gros succès, Je reviendrai à Montréal, vous parlez d'un grand Boeing bleu de mer. Dans Lindbergh, bah, vous citez justement un pionnier de l'aviation, vous citez plein de compagnies aériennes qui, je crois d'ailleurs, n'existent plus. Dans California, vous parlez d'un escalier rouge et blanc de l'avion. Il y a une petite fixette là, il y a une obsession des avions.
Rouge et blanc, ça c'est Air Canada pour tous les Canadiens. Et dans les ailes d'un ange.
Bien sûr, aussi.
Donc c'est vrai que j'en ai beaucoup chanté des avions.
Ouais. C'est un hasard ou...
Ben, je pense que c'est le cheval du troubadour moderne, l'avion. Sans avion, sincèrement, premièrement, ma chanson Lindbergh n'aurait jamais existé. Et Lindbergh n'aurait jamais traversé l'Atlantique. Et ma chanson non plus. Et le chanteur n'aurait jamais pu traverser suite à son disque. Donc, on peut dire que le fait que je sois là aujourd'hui, bien sûr, c'est avant tout grâce à l'avion.
Je vous ai vu tout à l'heure toucher un livre quand vous êtes installé dans le studio qui m'a un peu aidé à préparer cette émission. Vous disiez c'est un collector, c'est vrai. Je l'ai trouvé d'occasion. Il a un petit peu plus de 40 ans. Ça s'appelle Robert Charlebois, déchiffré par Claude Gagnon. À l'intérieur duquel vous avez répondu, donc il y a 45 ans, à un questionnaire de Proust. Et à la question, quel est votre idéal de bonheur terrestre? Vous répondiez avoir des ailes encore. Qui aimeriez-vous être? Un poisson volant?
Oh, ça c'est une mauvaise idée. Oh là là, ça c'est une erreur parce que ils sont chassés par les barracudas quand ils sont dans l'eau et dès qu'ils sortent, qu'ils essaient de planer plus que 10 mètres ou 15 mètres, ils se font attaquer par les goélands. Tu te fais mitrailler des deux côtés. Ça c'est pire qu'être un harki, je pense, être un poisson volant. Là, ça veut dire que j'avais pas réfléchi longtemps.
Dans le noir.
Bonjour, c'est Robert Charlebois et je suis dans le noir.
On va tester vos sens au cours de cette émission puisque vous êtes dans le noir. Et si vous voulez bien, on va tester maintenant votre sens du toucher. Je vais vous demander de tendre la main gauche et vers l'extérieur et je vais y placer quelque chose. Je vais me permettre de prendre votre poignet. Hop. Et voilà. Voilà, je vous laisse toucher ce que je... Voilà, c'est un peu lourd, attention.
Ça?
Voilà.
Ça, c'est une guitare, ça.
Bah, vous avez vite deviné.
Ou un banjo, ou enfin... Mais en
bah, je vous laisse
c'est un...
la je mettre je sur sens. Vos genoux, même.
C'est une guitare, ou peut-être une guitare électrique, ça, oui. Je ne peux pas dire la marque. Peut-être une...
C'est une guitare en tout cas, c'est pas un banjo.
Peut-être une Gibson. Ah bon? C'est plutôt une flatteur. Ben, c'est pas flatteur parce que la compagnie Gibson est en faillite, mais ça veut dire que le son... Godin, oui, c'est ça. J'ai dit Gibson, mais j'ai jamais eu une Godin, moi, donc...
Vous êtes déjà joué dans le noir et chanté dans le noir?
Non.
Vous voulez essayer?
Non. Non.
Pourquoi?
Je laisse ça à Stevie Wonder. Il fait beaucoup mieux que moi. Parce que j'ai besoin d'un médiateur. Je peux pas jouer sans médiateur, premièrement. Et...
Je vous la reprends. Hop. Vous avez croisé beaucoup d'artistes dans votre carrière.
Oula. Ni de briser des guitares.
Non, ça c'est moi qui m'en occupe. Et vous avez croisé quand même, et ce n'est pas rien, Frank Zappa qui a joué sur un de vos morceaux, Robert Charlebois.
Ouais, ben on a co-produit ensemble un des rares morceaux en anglais que j'ai écrit dans ma vie, qui s'appelait Petroleum. Mm-hmm. C'était à l'époque de Jimmy Carter. Le premier choc pétrolier. Et Frank, non seulement il est venu jouer de la guitare, mais il a fait l'arrangement, puis il fait des voix à la fin avec moi quand il dit « Bus drivers with feeling only », c'est sa voix. Et je crois qu'il a jamais fait ça pour personne d'autre au monde, donc pour moi c'est un... cadeau du ciel, puis un souvenir inoubliable. J'oublierai jamais cette façon qu'il avait de faire collaborer des musiciens et de mettre tout ensemble des gars qu'il avait jamais vu de sa vie, guitare, basse, batterie, avec une simplicité et une énergie Moi, comme musicien, je n'arrive pas à la cheville, sincèrement. Et puis, c'était un mineur de la musique. Hein. Il savait complètement écrire. Il pouvait prendre des dictées musicales plus vite qu'on jouait les notes. Il pouvait... c'est un virtuose, de la guitare aussi. Un son de fuzz inimitable. Et vraiment avait horreur de tous les paradis artificiels.
Votre grand-père tenait un magasin de disques. Vous aviez un grand-père, c'est ça, qui avait un magasin de disques. Est-ce que c'est là que vous avez écouté vos premières musiques? Est-ce que vos premières émotions musicales, vous les avez vécues, du coup, avec lui?
Mon grand-père avait un magasin de musique. Et ça s'appelait l'Échange Mont-Royal. Et ça existe encore. Ça a été repris par des jeunes qui font... aussi, ben maintenant, les disques n'existent plus, mais en tout cas, jusqu'à il y a 10 ans, ça existait. Je suis pas allé récemment. À l'époque, les succès, bon, un hit de jusqu'aux années 50-60, ça pouvait durer 3-4 mois. Presley avait été numéro 1 avec Don't Be Cruel pendant 6 mois, je crois. Aujourd'hui, ça dure 6 jours ou moins. Mais les gens allaient dire, ben, je te donne, mettons... deux Bing Crosby pour un Sinatra, puis mon grand-père échangeait comme ça.
C'était du troc.
Oui, mais les premiers tourne-disques, comment appeler, automatiques, vous savez, où on pouvait mettre, on pouvait empiler 5 ou 6 45 tours qui tombaient automatiquement. Ça, par exemple, je lui dois ça. Il y avait aussi les 16 tours, ça j'en ai jamais vu de ma vie, la vitesse 16 tours. Ça me servait à... Je bandais les yeux de mon petit frère, puis je le mettais debout sur le tourne-disque avec un ukulélé en plastique dans le cou. Je le coiffais comme Elvis, puis là, je le faisais tourner à 16 tours. Puis, là, après ça, je le montais à 33. Il s'est jamais rendu à 45. Il débarquait avant. Puis ma mère arrivait en hurlant, « Qu'est-ce que tu fais là? » J'ai failli le tuer comme ça un jour, à 78 tours.
Vous parliez d'Elvis Presley. Votre chanson d'amour préférée, ai-je lu, c'est « Can't Help Falling in Love ».
Oui, oui. Ben, il y a beaucoup de chansons d'amour fantastiques, mais celle-là, depuis 1961, je pourrais jamais avoir ses graves et j'avais pas essayé d'imiter lui, mais quand j'ai appris qu'il s'est inspiré de, enfin, que son équipe s'était inspirée, c'est des Italiens qui a derrière ça, j'oublie leur nom, inspiré d'une chanson française du 17e qui s'appelait Plaisir d'amour. 1783, Jean-Paul Égide Martini, musicien de Marie-Antoinette. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, mais tout le monde a chanté ça. Je me demande même si, bon, Dylan a chanté ça, Barbara Streisand, je me demande si Demis Roussos n'a pas chanté ça, Céline Dion, et personne a songé à la traduire dans sa langue d'origine. Alors j'ai eu une émotion, j'ai pris ma plume, et puis j'en ai fait... quelque chose de que j'ai fait, j'appelle ça faire la fermienne, mais c'est pas, elle est pas à moi. Si Samir a envie de la chanter, il est bienvenu, hein, ou n'importe qui sur la planète. Mais c'est très difficile d'adapter une chanson sans changer une seule note et sans trahir une seule émotion. C'est presque aussi difficile. C'est pas aussi satisfaisant, mais c'est presque aussi difficile que d'en composer une nouvelle.
Et vous l'avez appelé?
Je l'ai appelé fou amoureux de vous, mais là j'ai besoin d'eau parce que j'étouffe en ce moment.
Je vous donne un verre dans votre main et vous allez avoir le temps tranquillement de le boire puisqu'on va écouter cette chanson reprise d'Elvis par vous, fou amoureux de vous, Robert Charlebois sur la première.
Tombé fou amoureux
En 1969, vous avez fait la première partie de L'eau ferrée, Robert Charlebois. À l'époque, vous disiez de lui, c'est un homme qui rit très peu. Il est très intelligent, très lucide, beaucoup plus que moi. Je me dis qu'en le bousculant un peu, il finira bien par rire, car l'humour est le complément indispensable de l'intelligence. Est-ce que finalement, vous avez réussi à le faire rire,
oui,
L'eau ferrée?
Oui.
Comment? En le bousculant?
J'ai même réussi à le faire fumer un pétard.
Oh!
Il disait, je vais pas rater mon avion avec ça, là. Non, j'espère que non, et tout. Et non, j'ai beaucoup ri avec Léo, beaucoup ri avec Barbara aussi, qui pourtant était assez noire, hein, quand elle a chanté « Quand je serai morte, enterrez-moi » dans un piano. Ça a été vraiment une session de rire incroyable. Et beaucoup ri avec Alain Juppé aussi, quoi qu'on puisse en penser. Donc, celui finalement avec lequel j'ai ri le moins, mais qui m'a fait beaucoup plus rire que tous les autres que je viens de nommer sur scène, c'est Coluche, parce que je l'ai connu à une époque où il venait de quitter sa femme et ses enfants. En 1980, on construisait des cabanes en Guadeloupe avec des forêts où il n'y avait pas d'électricité, pas de télévision évidemment, avec des génératrices quand même, parce que lui était immensément bricoleur, mécanicien, habile de ses mains. Je dirais même jusqu'à ébéniste, parce qu'il faisait ses meubles, il faisait ses murs, il faisait des escaliers, il réparait son bateau, le King Creole. Alors que moi, je suis un bon second en menuiserie, mais il faut pas me demander de faire un escalier droit. J'ai pas beaucoup ri avec Coluche, j'avais une complicité amicale et silencieuse, mais comme je vous dis, plus avec Léo.
Vous êtes dans le Nord, Robert Charlebois, et du coup, vous êtes complètement loin du micro.
Je me suis éloigné du micro. Ouais,
vous êtes mis de côté. Vous avez fait le tour de votre siège. Voilà.
Là, vous êtes m'attache. Voilà. Je suis en avion, n'oubliez pas.
Exactement, vous entendez mieux.
Il faut que je m'attache, il y a de la turbulence.
Et attachez-vous bien maintenant.
Il est où le micro?
Il est juste devant vous, voyez.
Je pensais que c'était mon nez, mais non, là, c'est la capote du micro.
Il était dans votre dos il y a 5 minutes, mais là, il est bien. Pour vous. Attachez-vous bien. On va vous proposer un voyage maintenant, un voyage sonore qui va vous permettre de revisiter un certain nombre de souvenirs que vous avez vécus au cours de votre carrière. On décolle tout de suite.
Dans le noir.
Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier. Monsieur, ramassez-moi, chez vous, amenez-moi.
J'ai envie d'automne et toi, ma belle. J'ai envie d'automne et toi, belle qui a vu le temps.
Pour ceux qui pensent que la relève de la chanson canadienne n'existe pas, j'ai des nouvelles pour eux, Pierre Pérusse et moi, on en a trouvé un. Et il s'appelle Robert Charlebois.
Je t'emmène dans ma boulée, sifflante. Donne-moi ta main, vite, tiens-toi ben, un mille de long, rien qu'à courir sur des roches molles, bidibillons, entourées d'eau.
L'escalier rouge et blanc de l'avion m'emporte chaque nuit. En Californie, en Californie.
Cette note là,
j'ai l'impression qu'il y a un avion qui vous passe au-dessus.
Astro Jet, Whisper Jet, Clipper Jet Turbo. À propos, je suis pas rendu chez Sophie qui a pris l'avion Saint-Esprit de Duplessis sans m'avertir. Alors
et vous savez, ce qui est important, c'est de faire des choses que personne n'a fait dans notre métier. Alors lui, il a vraiment fait des choses que personne n'a fait avant lui.
Il y a de l'électricité dans l'air en cette soirée du 28 mai 1968 qui en est une de première pour Claudine Moffett, Louise Forestier, Yvon Deschamps, Robert Charlebois et leurs amis du Quatuor du Nouveau Jazz Libre du Québec. Ils lancent l'Hostie Show qui va faire l'effet d'une bombe dans le monde de la chanson, de l'humour et du spectacle québécois.
Pour moi, la musique française, c'était Brassens et Robert Charlebois. Et après, j'ai encore vu que c'est un excellent acteur.
C'est-à-dire que j'ai pas tout à fait un autre métier, mais j'en aurai un d'ici 3 ans parce que...
C'est lequel?
Ben, j'étudie dans le moment à l'École nationale de théâtre. J'ai engrais ma vie comme comédien.
Et qu'est-ce qui va prendre de le dessus, là? Le théâtre ou la chanson?
Ça, je sais pas. Je peux pas le dire.
Mais... Penses-tu que les deux peuvent se marier facilement?
Oui, ça va sans doute m'aider.
Moteur!
15 octobre à 6 heures du matin à la pointe aux Anglais. Nous voulons en partance avec le premier chargement de bois. Le capitaine de la goélette s'appelle Régent Desgagné. C'est moi qui tiens le livre de bord parce que j'écris mieux que lui.
On l'appelait le dénicheur. Il était rusé comme une fouine.
Charlebois et Forestier obtiennent un engagement à l'Olympia. Ils font la première partie de Georgette Plana.
Section Slacide, tu peux faire ça. Section Stone, faites ça. Section Bain Pacté, faites ça.
Est-ce que j'ai lancé un tambour? Disons que j'ai fait un bon solo de drame, que les tambours ont roulé dans la salle, c'est tout.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches.
Je reviendrai à Montréal.
Il a apporté le Québec à la chanson française. C'est pas une moindre chose.
Dans un grand Boeing bleu de mer. J'ai besoin de revoir l'hiver et ses aurores boréales.
À l'été 1974, il y a un événement qui retient l'attention. C'est la Super Francofête à Québec. À cette occasion, Robert Charlebois, Gilles Vigneault et Félix Leclerc se retrouvent réunis dans un même spectacle sur les plaines d'Abraham.
Arthur, 3-7, deviens.
Voulez-vous toujours le faire, le spectacle, non?
Oui.
Ben là, avec Charlebois, c'est sûr.
Est-ce que c'est vrai qu'il va faire le spectacle avec nous?
Ben oui.
Bonjour, Gabriel.
Salut.
Plus fort que tout.
La notion de pays, cela se porte à l'intérieur de chacun. Comme la conscience.
Grand fan, vous avez devant vous un grand admirateur.
On s'est déjà rencontré.
Oh, Joe!
Tu veux faire une association avec moi? Tu te fais passer pour Pembroke, tu confisques les 300 000 dollars de la caisse. Et après?
Dieu les enverra griller en enfer, ces sauvages.
Deux associés et une cloche.
Je suis un gars ben ordinaire. Des fois, j'ai plus le goût de rien faire. Je fumerai du pot, je boirai de la bière. Je ferai de la musique avec le gros Pierre. Mais faut que je pense à ma carrière. Je suis un chanteur populaire.
Vous savez, ce qui est important, c'est de faire des choses que personne n'a fait dans notre métier. Alors lui, il a vraiment fait des choses que personne n'a fait avant lui.
Dans le noir.
Ah, une moue dubitative, faites-vous.
Non, mais hey, il y a tellement de stock dans ce que je viens d'entendre. C'est comme si j'avais pris un cap d'acide. C'est comme une pilule de LSD, c'est concentré de... J'essayais de deviner qui parle. Il y avait Stéphane Escher, mais il y avait, attends... Et puis Georgette Plana, moi je pensais que c'était un groupe psychédélique dans le temps, Georgette Plana. Tu... Je me disais, Plana, tu sais, ça doit être des fumées de potes, ça aussi. Et non, pas du tout. Après ça, il y a Louise, l'hostie, il y a beaucoup trop de choses pour que je puisse émettre un commentaire, là. C'est comme... Dans le noir comme ça, c'est des parcelles de vie. Le loup, le renard, le lion avec Gilles, Félix, quand les hommes y vont d'amour, le California, mon Dieu, il y a beaucoup trop de choses. Je suis étourdi, là, après avoir écouté ça dans le noir, ouais.
Et puis des extraits de films dans lesquels vous avez joué, entre
oui, La mer et l'eau douce.
Le très beau film Gabriel.
Gabriel.
Vous avez fait une apparition.
Oui.
Et puis un génie de
Je jouais plus qu'une apparition, je faisais mon propre rôle.
Oui.
Ça, c'est plus difficile que de jouer un cowboy avec Sergio Leone et Terence Hill. Ça,
ah bon?
Jouer son propre rôle. Surtout dans le cas de Gabriel, c'était l'amour chez les déficients et... Louise Archambault, la réalisatrice, elle me dit, ils répètent tes chansons depuis 2-3 semaines, ils t'attendent depuis 3 semaines. Elle dit, si tu rates ton entrée, t'auras pas de chance, tu vois. Alors, essaie de dire ça. Elle me donne 4 lignes impératives. Mmh. Puis là, après ça, elle dit, mais assez improvisé. Moi, je vais te suivre avec une caméra au point, puis parce que ces enfants-là, on n'aurait pas pu recommencer deux fois. C'est dans ce sens-là que c'est très, d'accord, très difficile. Ouais.
Et puis Bruel, on a entendu aussi qu'il parlait de
Lindbergh. Ah oui, bah oui, Patrick Bruel. Et Souchon, mon ami Souchon qui dit, il fait des choses. Ben c'est vrai qu'il faut faire des choses que il faut. Un artiste, c'est là pour étonner les autres, puis de temps en temps s'étonner soi-même. Je dirais pas que j'ai jamais fait une adaptation de chansons américaines, ça serait mentir. J'avais déjà adapté il y a 35 ans à peu près Stardust, qui est ma deuxième chanson préférée aussi de Hoagy Carmichael. Voilà, mais c'est un exercice fantastique d'adapter en essayant de pas trahir une seule ligne de la pensée de l'auteur, en n'employant pas les mêmes mots, évidemment, parce que c'est infaisable du français à l'anglais, de l'anglais au français, et surtout en respectant chaque note. C'est ça le vrai défi.
Certains se sont aussi attelés à reprendre certaines de vos chansons. Je reviendrai à Montréal, par exemple, a fait l'objet de plusieurs reprises. Vous en avez quelques-unes en tête?
Mon Dieu, je me demande si... Isabelle Boulay? Non, attendez. Qui a chanté « Je reviendrai à Montréal » ?
On va vous en faire écouter.
Liane Folly, peut-être. Ouais. En duo, je l'ai fait une fois avec Liane Folly.
Il y a un homme, un Américain, qui en a fait une version. Je vous laisse écouter, si vous voulez, on en reparle après.
Sans qu'il y ait trace de
Robert Charlebois, un jour, Laurent Voulzy a dit de vous, il est agréable à côtoyer comme on aime être avec une œuvre d'art. Est-ce que vous prenez de la valeur tout comme une œuvre d'art avec l'âge?
Mon Dieu, peut-être que je suis tellement classique que je prends plus de valeur. J'ai ma valeur, mais je vais pas doubler demain matin. C'est sûr, comme les vieux tableaux. Mais moi, je pense la même chose de lui. C'est il y a des gens dans ce métier-là qui sont fantastiques. Il y en a d'autres qui sont un peu moins. Ouais, si on veut. Il y en a qui sont trop aussi. Mais Alain et Laurent, c'est des gens mais exceptionnels. Ils ont toujours été là pour moi. Des fois, quand je faisais mon 50e anniversaire. Ils sont venus les deux, puis il y avait des producteurs dans la salle qui ont dit « Robert, ça fait 20 ans qu'on essaye de les faire venir. On n'a jamais été capable. Toi, tu fais un coup de fil, puis ils viennent. » Mais j'ai dit, il y a des fois des choses que l'argent peut pas acheter. L'amitié est plus fort que tout. Hein.
On va tester votre goût, si vous voulez bien, Robert Charlebois, maintenant. Vous êtes d'accord?
Mon goût?
Oui. Alors, c'est une boisson aujourd'hui qu'on va vous goûter. Mm-hmm. Donc, je pose devant vous un verre.
Ah ouais.
Je vais vous laisser le prendre, je le tiens pour le moment. Oups. Voilà, vous l'avez dans la main. Mm-hmm. Je vous laisse goûter. Donc, actuellement, si je peux me permettre, Robert Charlebois.
Oui. Va goûter quelque chose?
Voilà. Alors, dites-nous déjà, c'est chaud, c'est froid, c'est salé, c'est sucré, c'est...
C'est de la bière.
Voilà. Plutôt pas mal. Est-ce que...
La bière de Trappiste. Triple fermentation.
Ça, je pourrais pas vous dire, mais je vous fais confiance. Ça vient d'où, d'après vous?
Attendez, non. Ça, c'est une bière que j'ai goûtée récemment. Je crois que ça vient de la Guadeloupe. Attends.
C'est bon?
Est-ce que ça serait pas de la Carette?
Ça vient de Belgique.
Ah bon?
Ouais.
Attendez.
Je regoute. Au troisième litre, normalement, vous arriverez à identifier le nom.
Mais c'est très bon.
Bon, tant mieux. Ça s'appelle la cuvée du château.
Je connaissais
Castel.
Pas. Je connaissais pas
ça
cette
nous a
bière,
été
là.
Fortement recommandé par quelqu'un.
Mais c'est très bon. Très bon. C'est très, très bon. Ouais.
Alors, on vous a fait goûter de la bière, non pas par hasard, mais parce que vous avez été...
C'est une bière, en tout cas, vivante, là, refermentée en bouteille. Et...
Vous avez
très,
été...
très bonne, très, très bonne. Je peux plus m'arrêter de la joie.
Je vous en resserre,
on finira pas l'émission.
Bah, vous finirez la bière, par contre. Je vous resserre un peu.
Ah ouais. Non, ça va, ça va, ça va.
Ah bon? Vous avez été vice-président.
On finira le reste à la clarté.
En pleine lumière.
Je crois que j'ai un peu trop bu ce soir. Que j'ai un peu trop bu, tu sais, parfois.
Vous êtes travaillé pour Unibrew, on dit comme ça?
Oui, oui.
Donc, il y a une microbrasserie québécoise, c'est ça? Et pendant 10 ans quasiment que vous avez fait ça?
13 ans.
13 ans.
Ouais, ouais, ouais.
Ça vous a plu?
Ah, bah oui, ça a été une expérience fantastique dans ma vie, ça. Je dois beaucoup à la Belgique, d'ailleurs, parce que je prenais mes levures à l'Université de Louvain, où nous avions un brasseur belge qui s'appelait Gino Van Tigam, flamand, qui était chez Chimay, donc, Chimay Bleu, c'est des bières immenses pour ceux qui connaissent la bière. Et un jour, j'étais en Belgique et j'ai fait un très mauvais album que j'ai été obligé de jeter à la poubelle parce que j'étais devenu comme une parodie de moi-même, un studio belge avec des musiciens français, etc. Puis ça sonnait, bon, c'était pas moi, quoi. Et puis les chansons ne devaient pas être terribles non plus. Des fois, on accuse les musiciens, c'est simplement la chanson qui est pas bonne. Mais à toutes les 10 minutes, les techniciens allaient dans le frigo, puis ils s'ouvraient des Chimay, des Orval, des Hoegaarden, puis tout ça. Puis moi, je me disais, mais en Amérique du Nord, les gens, ils connaissent une sorte de bière comme ils connaissent le pain de mie. On peut interchanger les étiquettes, personne ne voit la différence. Moi, je suis pas un martien. Là. Si j'aime ces bières-là, ces bières de Trappiste, ces bières refermentées en bouteille, je suis pas seul, moi, qui va aimer ça. Et j'ai eu l'idée avec un de mes amis qui était très, très fort en distribution, André Dion, de monter cette microbrasserie. On a mis un petit peu d'argent là-dedans. Bon, la première année, on pouvait pas fournir. Et on a doublé pendant 13 ans. J'ai vendu au bout de 13 ans, puis il fallait que je vende parce que les gens avaient oublié que je faisais de la musique. Ma bière était tellement bonne. J'ai créé...
Oh, ouais, c'est vrai, bien meilleure que ma chanson.
Oh mon Dieu, incomparable. Et puis une bière, tu loues ça. Hein. Une fois qu'elle est finie, tu loues un feeling, en fait. Mais j'ai créé 22 bières en 13 ans. Mais ça a été formidable parce que ça m'a fait découvrir une moitié de la planète que je connaissais pas. Les industriels, les camions, tout ça. Mais un chanteur est quand même un petit capitaine d'industrie. Quand on chante, on a aussi de la quincaillerie et des camions. Mais là, je l'ai fait là, à une échelle et je l'ai fait gratuitement. J'avais tellement la foi que j'ai dit, la première année, il me dit, Robert, combien tu veux comme salaire? J'ai dit, je veux pas de salaire. La première année, je veux 2% des actions. Si on double pas, vous me payez pas. La deuxième année, j'en veux 4. Vous me voyez venir? Et puis 8, puis 16, puis tout ça, je me suis rendu jusqu'à 22. Parce qu'on doublait à chaque année notre production. Et puis à un moment donné, ben voilà. Je peux me permettre de faire des mauvaises chansons maintenant.
Pour l'instant, un petit peu de musique avec un compositeur que vous aimez particulièrement, je crois, c'est Marvin Hamlisch, grand compositeur de musique de film. Prends L'Oseille et Tire-toi, par exemple, Nos plus belles années, L'Arnaque, Le choix de Sophie, Frankie et Johnny et James Bond, avec la voix de Carly Simon tout de suite. C'est un extrait du film L'espion qui m'aimait.
Bonjour, c'est Robert Charlebois et je suis dans le noir.
Dans le noir. L'essentiel est invisible pour les yeux.
On va tester votre odorat maintenant, si vous le voulez bien. Je vais me permettre de placer quelque chose sous votre nez et je vais vous demander de respirer très fort.
Chocolat.
Ouais.
Ah ouais.
Bravo.
Mm-hmm. Bah oui, en Suisse quand même. Mais pas qu'en Suisse parce que quand j'étais petit... J'étais un peu l'idole de mon quartier parce que du côté de ma maman, c'était des Irlandais, les gays, et mon oncle avait 5 sœurs, puis ils a exploité à mort, puis il a fait une compagnie de chocolat.
Voilà,
et ses sœurs Ma mère et ses sœurs se saussaient les bras dans un baril de chocolat jusqu'au coude pour les rouler, puis ensuite les faire le petit dessin sur la pâte et tout ça. Puis quand j'étais petit, à l'âge de 8-10 ans, je connaissais, en tout cas de la compagnie des bonbons gays, des chocolats gays, et de Jean et Charles et de Laura Secor, qui étaient les trois compagnies majeures québécoises, je savais si c'était aux cerises, aux bananes, aux framboises, à l'érable, aux noix, au chocolat pur, tout ça.
Vous étiez accro?
Ben non, j'en ai mangé quand j'étais petit, comme tous les enfants, j'aimais ça, mais j'aimais beaucoup, beaucoup les bonbons clairs aussi. Et mon oncle, il faisait aussi des peanuts. Il m'a dit, si tu veux faire de l'argent un jour, Robert, vends pas du chocolat, vends des cacahuètes. C'est moins de trouble.
J'aimais beaucoup,
j'ai toujours aimé. Ah ben là, la bière, j'aimais tellement ça que à partir du moment où j'ai eu mon usine de brassage, on dirait que c'est comme avoir, si t'aimes beaucoup le chocolat, achète-toi une usine de chocolat, tu vas en manger moins.
Ben oui.
Et là, on dirait que j'ai commencé à boire mieux et moins quand j'ai eu une hibrou, voilà. Ouais.
Vous avez souvent parlé de drogue, de paradis artificiel, d'alcool. Quand vous faites le bilan aujourd'hui, ça vous a apporté plus que ça ne vous a retiré ou posé de soucis?
Tellement de gens ont perdu leur vie et leur talent à cause de l'alcool qu'il y a de quoi être jaloux, parce que moi, ça m'a apporté du bien-être. Et... comment vous dire?
Vous avez su le gérer, vous?
Oui, je crois. Mais de toutes les drogues au monde, cocaïne, j'ai tout essayé. Bon, c'est encore l'alcool, pour moi, qui est le plus fort, qui me donne le plus de satisfaction et que j'aime au-dessus de tout. Donc, c'est sûr qu'on fait un petit joint de temps en temps. Bon, mais pour moi, quand je fumais, même quand je fumais beaucoup dans les années psychédéliques, la bière prenait toujours le dessus. Après chaque joint, il fallait toujours qu'il y ait une bière pas loin. Et ben c'est comme ça, comme voulez-vous, les paradis artificiels, rien ne remplace le vrai bonheur, comme disait Coluche, mais si on peut s'en passer, c'est tant mieux.
Robert Charlebois, qu'est-ce qu'une bonne chanson? Après 50 ans de carrière, vous diriez quoi, vous?
Ben, une bonne chanson... c'est le mariage parfait entre un texte et une musique. Et le texte, c'est pas obligé d'être du Baudelaire, et la musique, c'est pas obligé d'être du Beethoven non plus, mais une bonne chanson, en gros, je crois pas que j'en ai fait une, moi, à date. Mais si j'en fais une un jour, je suis certain que ce que les gens retiennent d'une bonne chanson, c'est la simplicité. Moi, j'ai tendance à mettre un petit peu trop d'accord, comme Duke Ellington. Bon, c'est pas un défaut, mais j'en mets trop.
Dans quelques instants, vous allez pouvoir retrouver de la lumière, sortir de l'obscurité.
Ouf, mais que ça va être doux.
Mais juste avant, il y a le questionnaire Ombre et Lumière.
Dans le noir.
Robert Charlebois, la dernière fois que vous avez broyé du noir, c'était quand et pourquoi?
Maintenant, à l'instant... Qui ne reviendra plus jamais, parce que je serai jamais aussi jeune qu'à l'instant où je vous parle. Mais en ce moment, j'ai très très hâte d'enlever mon bandeau. Je suis pas au bord du malaise, je fais pas de paranoïa, mais je crois que, pourvu que ça n'arrive jamais, que j'aimerais mieux être sourd qu'aveugle. Ouais.
Dans le noir.
L'idée la plus lumineuse que vous ayez eue au cours de votre vie?
Je crois que ça a été de m'acheter une guitare à l'âge de 13 ans et de transposer un petit peu ce que je connaissais déjà sur le piano, sur une guitare, et d'apprendre mes accords chiffrés. C'était la meilleure idée de ma vie, plus que d'apprendre à déchiffrer des partitions classiques. Ouais.
Dans le noir.
Comment vivez-vous avec votre part d'ombre?
Je vis assez bien, parce que quand je me demande, tu sais, des fois tout le monde se dit « Ah, j'aurais aimé ça être un tel ou un tel », moi je fais le tour de la Terre, et même en incluant George Clooney et et Bernard Arnault, j'ai envie d'être personne d'autre que moi-même. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas tellement d'ombre et que je suis finalement assez bien dans ma peau.
Dans le noir.
Que vous apporte la lumière des projecteurs?
Elle sert surtout à éclairer la salle parce que quand je fais un concert, je me prends des cibles, mais disparates, mettons. Un jeune ado, un vieux mononcle, une ma tante en jeans, et je fais une moyenne, puis je me dis si ces quatre personnes-là repartent en mangeant leur siège tellement qu'ils ont aimé le show, j'aurais réussi mon... Parce que je vois pas derrière les six premières rangées, mais c'est les six premières rangées qui me nourrissent, voilà, quand je fais un show.
Dans le noir.
Mourir, c'est atteindre la lumière au bout du tunnel ou se retrouver dans le noir à tout jamais pour vous?
Moi, je pense que ça s'arrête. Et c'est un grand trou qui est ni noir ni blanc, c'est le néant dont on parlait au début quand on a commencé l'interview. Et je crois que c'est sans douleur. Tant mieux si ça continue. Mais si ça s'arrête, moi je suis prêt. Et si ça continue pas, ceux qui y croient vont être très très déçus.
Dans le noir.
Qu'aimez-vous faire le plus dans l'obscurité?
Ben, c'est difficile de rigoler dans l'obscurité. Mais ce que j'aime le plus dans la vie, c'est rire, autant que possible des autres, mais surtout de moi-même, parce que je crois que ceux qui savent rire d'eux-mêmes, c'est une bénédiction, ils vont pouvoir s'amuser plus longtemps que les autres.
Et qu'aimez-vous faire le plus en pleine lumière?
Prendre ma guitare, ou lire. Et le piano aussi, il faut bien éclairer les notes. Je suis pas Stevie Wonder, comme je vous ai dit plus tôt.
Très bien, merci beaucoup. Vous pouvez...
Soulevez
votre masque. Ouf, et du coup, quittez l'obscurité.
Aïe! Ah, vous avez...
vous avez changé? Non, c'est qu'on ne s'était pas vu avant.
Non, je pensais que... Je m'imaginais que je parlais.
Vous avez été accueilli par Alexandre Lemire, réalisateur.
Mais... je vous avais pas vu du tout.
C'était fait exprès.
Je pensais que je parlais à un autre visage.
Comment vous avez vécu cette expérience dans le noir?
Comment vous dire? Je n'ai jamais porté de boule qui est. Même en avion, je mets jamais le masque, même en ayant sauté une nuit blanche, je me sens prisonnier quand je suis derrière un masque ou des boules qui est. Donc, non. De temps en temps, mes oreilles se referment d'elles-mêmes si j'écoute une musique qui est très laide, par exemple. Ouais. C'est difficile. Vous pouvez fermer vos yeux, mais essayez de fermer vos oreilles. C'est très, très difficile. Mais j'y arrive, moi. Ça a pris du temps.
En revanche, je me rappellerai ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir que votre chanson, vous l'avez un peu redécouverte en étant dans le Nord. En tout cas, vous l'avez fortement appréciée.
Falling in Love with You, en tout cas, je l'avais écoutée. Ils me l'ont envoyée en Guadeloupe, donc j'étais sur ma terrasse, je regardais les oiseaux, la mer et tout. Mais l'écouter à la noirceur, j'ai découvert des choses, notamment dans les cordes là pendant le solo, qui m'avaient échappé. Et puis la guitare, la petite guitare nylon acoustique au début aussi, qui est très très belle. Oui.
Dans le noir.
Pour y voir plus clair.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant cette heure.
Eh bien, merci. Je l'ai vu passer, par contre. D'habitude, les artistes disent « On n'a pas vu passer le temps, mais là,
bien
là je l'ai vraiment
là.
Vu passer. »
Merci d'avoir écouté Dans le Noir aujourd'hui avec Robert Charlebois, une émission que vous pouvez réécouter en vous rendant sur le site de la radio rts.ch. Dans le Noir est un programme réalisé par Alexandre Lemière et dont François Piton signe la programmation musicale. Je vous souhaite une belle après-midi à l'écoute des programmes de la première. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à partir de 15h. Nous serons avec Frédéric Becbédé qui sera forcément dans le noir. Vous écoutez la première, il est 16h.